Hello l'équipe, il est 19h tout pile. C'est Sauce Spencer pour la pluie et le beau temps. Let's go.
Move. Tous les mardis.
19h, 21h.
Move.
La pluie.
Et le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Avec Sauce Spencer.
Florence et Leila.
La pluie et le beau temps.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, votre émission d'actu, culture et société. Vous avez l'habitude maintenant, c'est tous les mardis, 19h, 21h sur Move. Je suis toujours Sauce Spencer et comme chaque semaine, je suis avec ma team Florence et Leïla qui aujourd'hui sont habillées pareil.
Ouais, on est matchy.
Elles se sont donné le mot, t-shirt noir, petit jean, simple décontract, mimi, matchy. On adore.
Mimi, Mini Cooper, facile à manier, facile à garer, comme on dit.
Ça me saoule. Dire, ça va, mais vas-y. C'est une dinguerie. Quoi de neuf, l'humeur du jour, Mini Cooper?
Bah écoute, ça va. Hein. J'ai l'impression que la journée a été longue.
Mais là, c'est le moment détente.
Voilà.
Exactement.
Et on avait hâte, soleil. En fait.
Ça va, tranquille. Tranquille. En plus...
un beau temps calme.
Je m'en remets pas, Mini Cooper calme.
Mais Mini Cooper, facile à garer, facile à manier, parce qu'on est skinny.
Mimi Matiskini. Et ben voilà, comme tous les mardis, on va passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. J'ai ri tout à l'heure parce que ma mère m'a dit: oh, t'as refait tes tresses, je te vois. Donc elle est sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, les influenceurs, malgré leur visibilité, sont de plus en plus exposés à la pression sociale, l'isolement, le harcèlement et la quête de validation. Ces facteurs peuvent conduire à des troubles mentaux importants, voire plus graves. Après le suicide récent d'une influenceuse insatisfaite de son nombre d'abonnés, oui, c'est vrai, une influenceuse qui s'est suicidée, on a décidé de vous parler de l'impact des réseaux sociaux sur le bien-être émotionnel.
Ouais, et on va aussi parler de du Snapchat français qui nous offre un peu des téléréalités 2.0,
ça, c'est clair.
De la course au like avec Flo, et on reviendra aussi sur les premiers réseaux sociaux, enfin le premier réseau social, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Oui, exactement. Ouais.
Skyblog aussi. Ah. Et Flo nous dira si c'est vraiment cool de chercher à être populaire quand on est au collège.
Ah. Ça, c'est les souvenirs. Le tourisme cinématographique, donc le tourisme qui est lié aux films et aux séries, est un phénomène qui grandit depuis les années 2000. Avec le succès de films et de séries comme Game of Thrones ou plus récemment The White Lotus en Thaïlande, il n'est pas rare de voir certains endroits du monde visités par des fans qui veulent marcher dans les pas de leurs personnages préférés. Mais attention, tout n'est pas toujours si positif.
Ouais, on va parler de ce qui se cache derrière le tourisme de luxe et se questionner sur le fait de vivre des vacances de riches dans des pays pauvres. On va aussi se plaindre des Français qui font leur EVG à Budapest et on va voyager avec Leïla au bord du Poudlard Express pour ceux qu'on l'a
rêvé. EVG, enterrement de vie de garçon. Exactement. Alors, comme d'hab, on revient cette semaine avec deux gros sujets d'actu, culture et société d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Alors, restez branchés parce que tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La Pluie et le Beau Temps. C'est parti.
Jusqu'à 21h.
Sauce Spencer.
Florence.
Leïla.
La Pluie et le Beau Temps.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez, comme tous les mardis, écouter La Pluie et le Beau Temps sur Move, mais aussi en replay sur l'application gratuite de Radio France ou sur move.fr.
La Pluie et le Beau Temps.
Donc j'en parlais à l'instant, c'est une nouvelle dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes branché réseaux sociaux, mais le 24 avril dernier, Misha Agrawal, donc une influenceuse beauté d'origine indienne, s'est suicidée 2 jours avant son 25e anniversaire. C'est tragique, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, le 30 avril, sa sœur a pris la parole en dévoilant sur Instagram les causes de sa mort. Donc je lis un extrait du message qu'elle avait posté. Instagram n'est pas un monde réel et les followers ne sont pas un véritable amour. S'il vous plaît, essayez de comprendre cela. Ma petite sœur avait construit son monde autour d'Instagram et de ses followers avec pour seul objectif d'atteindre 1 million d'abonnés et de gagner des fans. Lorsque ses abonnés ont commencé à diminuer, elle est devenue désemparée et s'est sentie inutile. Donc ouais, c'est horrible. Donc vous
ça
l'avez compris.
Très jeune. Ouais.
Bah ouais, à
mais
deux
c'est
jours,
fou
c'est
de
ans.
Se rendre compte de l'impact que ça peut avoir pour certaines personnes quand quand nous on a une, tu sais, on a une relation pas éloignée, professionnelle, ouais. Tu vois, avec les réseaux.
C'est
nous,
ça. C'est, là c'était c'est vraiment pour
fun,
le coup sa vie quoi. Elle avait bâti tout ça, enfin toute sa vie autour de ça. Et donc ouais, la raison de son suicide est directement liée à la pression qui est causée par les réseaux sociaux. Et c'est pas la première hein, dans la triste liste des influenceurs ou des créateurs de contenu qui ont mis fin à leur jour ou bien même qui ont été impactés psychologiquement. Il y en en a tous les jours. J'ai un autre exemple, en 2021 par exemple, là c'était l'influenceuse allemande, donc Kasia Lehnart, qui s'était elle aussi suicidée à l'âge de 25 ans. En plus, elle avait un petit garçon de 5 ans, et avant cet acte, elle avait évoqué à plusieurs reprises la pression liée à l'image et à la quête, et la quête de validation en ligne. Donc ces cas, ils mettent en lumière quoi ? Ils mettent en lumière les dangers psychologiques qui sont associés aux attentes et surtout aux pressions de la célébrité numérique. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est de plus en plus discuté dans notre société. Chez nous, récemment, c'est une vidéo où on voit une personne qui est assez connue sur les réseaux. Il est producteur, rappeur, vidéaste. Il s'appelle Olivier Leniski, mais on l'appelle Le Motif. Et en fait, on le voit dans une crise d'angoisse qui est causée, entre autres, par une surcharge de travail. Et plus tard, il a expliqué qu'il avait ressenti un manque de reconnaissance dans son travail, notamment sur Internet. Ce sentiment d'injustice combiné à une faible reconnaissance a contribué à son épuisement pro et perso. Et sa copine, qui est aussi connue, qui est youtubeuse, Océane Hamsler, l'avait filmé. On l'écoute.
Je suis vraiment fou. Autant là, faut m'interner.
Pour le moment, on va voir. Ouais.
Là, faut m'interner.
Comment ça redescend
plus rapidement. Ça va pas du tout.
Ouais, c'est
marrant. Je ressens que ça va pas du tout.
C'est hyper violent. Et d'ailleurs, j'en profite parce que si vous êtes artiste et que vous nous écoutez, j'ai une amie qui est membre d'une asso qui s'appelle Cura. Ils ont lancé une enquête pour comprendre du coup l'impact des réseaux sur la santé mentale des artistes. Donc n'hésitez pas à aller témoigner, c'est hyper important.
Ah, mais j'ai vu le post hier, un post noir qui. J'ai tout lu. Oh là là, je voulais trop en parler en plus aujourd'hui. Ah, génial. Donc, on le lira. Je lirai un extrait du post tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la course aux vues, aux likes, à la validation en ligne, elle est en train de nous tuer, Florence, pour le coup.
Ouais, je peux que liker ce que tu dis. Non, mais plus sérieusement, oui, avoir le plus de likes possible, c'est une forme d'addiction qui concerne un peu tout le monde, et même au-delà des influenceurs. C'est une marque de popularité et on cherche constamment la validation des autres, même des inconnus. D'ailleurs, c'est pour lutter contre ça que maintenant on peut cacher le nombre de j'aime sous les publications. C'est censé nous aider à être plus concentrés sur le contenu plutôt que sur le fait qu'il marche ou pas. Est-ce que vous, c'est un truc que vous faites, cacher les likes sous vos posts?
Je vais regarder.
Tu sais même pas.
Non, je le fais pas. Je le fais pas parce que je décide de plus me stresser sur ce genre de trucs.
Tu t'en fiches un peu quand tu postes.
J'ai appris à mon.
Moi, ils sont cachés.
Peut-être que c'est une fonctionnalité qui est déjà dans tes trucs. Peut-être dans tes paramètres.
Je sais pas. Toi, c'est pour cette idée-là ou tu savais pas et tu t'en fiches?
Je savais pas, mais s'ils étaient affichés, je m'en fiche.
Ouais. Et toi, du coup?
Moi, je le fais pas, mais je comprends l'idée, mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu hypocrite parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur like quand ils estiment qu'il n'y a pas assez de j'aime sous une publication. Ah, je le vends pas avec ceux où il y en a le plus et résultat, ça gâche tout le concept, je trouve. Puis dans tous les cas, à mes yeux, ça reste une fausse bonne idée parce que le bouton j'aime, il continue d'exister.
Oui. Ouais.
Et en même temps, c'est l'outil principal des algorithmes, donc ce serait compliqué de le supprimer totalement, mais masqué ou pas, c'est lui qui par essence est nocif, dans le sens où il repose sur un mécanisme psychologique qui s'appelle la boucle de rétroaction. En gros, c'est quelque chose qui se passe entre nous et nous, c'est plus on a de likes, plus on en veut, et moins on en a, plus notre estime de nous, elle baisse en fait.
Okay. Et c'est totalement subjectif, mais c'est en comparaison des autres en plus.
Toujours, c'est ça. Parfois, on change carrément nos publications pour tendre à plus de validation et donc booster notre ego numérique. Par exemple, pour certaines jeunes filles, ça peut être en mettant des photos plus sexy, quand d'autres vont jusqu'à s'inventer une vie. Il y a une étude qui dit quand même qu'il y a un jeune sur deux qui adopte une fausse personnalité sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, les filles, ça vous est déjà arrivé de mentir ou bien d'enjoliver un peu vos quotidiens et tout pour...
Non, ça sert à rien de mentir parce que...
Après, ça dépend, c'est quoi? Genre, est-ce que tu montres que tes bons côtés sur les réseaux?
Je pense que ça contribue parce qu'on
Moi, je vais pas mettre une photo où je suis moche, par exemple. Donc,
ouais,
mais tu n'es jamais moche.
Exactement.
C'est ça que tu voulais qu'on te dise en fait.
Exactement. Ouais,
oui, tu ne mens pas. Mini maxi skinny, mini Cooper. C'est ça en fait. J'ai compris la DA du jour. Mini.
Ouais.
Mini.
Mais après, je me dis aussi, c'est peut-être parce qu'on est adulte, parce que adolescente, je pense, que j'aurais tellement pu mentir. Enfin, faire genre, je vais quelque part ou j'en sais rien. Enfin, tu vois.
Ouais, mais je comprends. Mais je pense, oui, je pense que c'est l'âge qu'on a et aussi. C'est un peu décentralisé de nos vies. Enfin, c'est un accessoire en plus, les réseaux. Mm-mm. C'est un truc pour s'amuser. On n'a pas à le prendre au sérieux. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça nous impacte moins.
Et après, moi, je me dis aussi, j'essaie d'être fidèle, mais à quel point je le suis à moi-même, vu qu'il y a aussi une dimension un peu pro. En fait, je peux pas non plus me permettre d'être 100% la flot de l'extérieur.
Ça. C'est que nous, c'est pas la même chose. L'usage de nos réseaux sociaux, c'est clairement du pro. Donc
C'est ça. Mais bon, après, par contre, il y a des moments où je me surprends quand même à vraiment vouloir afficher certaines choses. Sans doute parce que j'en suis fière ou que je trouve ça cool. Et rien que ça, ça a questionné parce que ça ouais. rend forcément, enfin ça montre en fait que c'est faussement sincère. Et ça me fait penser à cette mode de s'exposer en train de pleurer. Justement, les gens comprennent qu'afficher une vie parfaite, bah c'est plus ce qui touche les autres, alors qu'au contraire la vulnérabilité, bah ça attise la compassion. On en pense quoi de ça de...
Mais c'est vrai, hein. Par contre, il suffit juste que tu pousses un coup de gueule ou que tu ouais. pleures.
Mais même
etc.,
là, la vidéo de crise d'angoisse.
Ouais.
Ouais.
Bah, en fait, c'est ouais, ça... hyper intime.
Ouais. Et... Oh, je pourrais jamais faire ça.
Moi, en tout cas, ouais, je sais que c'est pas quelque chose que je ferais. En fait.
Et même quand tu pleures vraiment et que t'es très mal, bah, moi je... t'as pas le réflexe d'être genre ok.
Ouais. Et même si je suis, ouais. admettons, en train de faire une vidéo, si je devais m'exprimer devant des gens et tout, ouais. et faire une vidéo et me filmer, si je vois que je suis en train de pleurer, bah j'arrête bah, la ouais. vidéo ou je la sors jamais.
Ouais. Une fois, ça m'est arrivé, mais genre je pleurais pas, j'étais grave émue. Parce que vous savez que moi je fais des stories face cam et tout sur ouais. mes réseaux sociaux et je parlais en fait d'un, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était peut-être je crois il y a 2 ans, il y avait un monsieur qui était allé dans un parc et qui avait essayé de poignarder un enfant à Annecy. Je sais pas okay. si vous en souvenez. Bref, c'était une dinguerie de fou et ça avait touché un enfant. Et comme je fais toujours des stories sur l'actualité, etc., et face cam, bah là j'étais trop émue. J'étais en mode, ah, c'est une dinguerie ce qui se passe. Parce que là,
okay. je vous parle de l'actu. En fait,
après, j'ai pas pleuré tout, mais j'ai dit à mes abonnés, là j'avoue, je suis grave émue, mais parce que c'est okay. tellement inhumain. Mais après, jamais de la vie, si j'avais pleuré ou quoi, j'aurais coupé le truc. Tu
même
vois
après, les trucs trop intimes, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Genre, je trouve ça mignon quand tu vois, il y a des gens qui postent leur demande en mariage.
Mais pour
leurs
moi, ça,
enfants.
C'est trop intime. Ça, c'est trop
non,
la
mais
vie
leurs
privée,
enfants, etc. Moi, je suis en mode ok, je vais trouver ça mignon, ouais. mais je sais que de mon côté, ça viendrait jamais.
Bah,
genre,
ouais.
moi, ça me viendrait jamais à l'idée de poster. Enfin, c'est le genre de truc que j'ai envie de partager avec ma famille, avec
bah,
mes
oui,
amis,
oui,
les
oui.
gens qui me connaissent
ouais,
dans la vraie vie,
ouais.
et pas
ça, c'est
avec
hyper,
tout le monde,
ça,
tu
c'est
vois.
Beaucoup
mais moi,
trop
je
privé.
Mais,
ça, c'est trop privé.
Mais pour moi, ça manque un peu d'authenticité malgré tout. Mm. Mais c'est aussi pour ça qu'on constate qu'en fait, peu importe ce qu'on met en avant, dans tous les cas, c'est une mise en scène.
Oui.
Qu'on
oui,
fasse semblant d'être super heureuse ou qu'on soit chaotique, bah, on crée notre identité en fonction de ce qu'on se raconte de nous et on partage nos vies pour nous prouver qu'on existe au final. Ce qui est parfois ridicule, c'est que en fait on s'en fait des montagnes alors que souvent on regarde plus notre propre story que les autres ne le font.
C'est vrai, hein.
Et qu'est-ce qui peut en fait passer pour de l'assurance, du coup bah c'est plutôt tout l'inverse.
Ouais, et selon les experts, en fait plus une personne se sent isolée, plus elle va désirer une visibilité sociale.
Ouais, et d'ailleurs c'est quelque chose qui marche avec tout. Pendant mes recherches, je suis tombée sur d'autres études qui montrent que par exemple plus une personne doute de son couple, plus elle va l'afficher sur
mais
les
ça,
réseaux
c'est
sociaux.
Vraiment vrai.
Et oui, après tu tombes des nues quand t'apprends des trucs de fou
ouais,
et tout.
Ah ouais, et c'est fou parce qu'en fait ça revient à instrumentaliser sa partenaire comme pour penser ses propres blessures narcissiques. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, beaucoup vivent mal de pas apparaître sur le profil de leur partenaire. Est-ce que pour vous c'est un enjeu si vous êtes avec quelqu'un qui
ma belle,
vous affiche ou inversement?
Une seule phrase: vivons heureux, vivons cachés.
Non, moi mais ça voilà. dépend du mec. Mm-hmm. Bon, déjà j'aime pas les mecs qui s'exposent trop. Mm-hmm. Mais si c'est un mec qui s'expose de ouf, il expose toute sa vie,
sauf
son chien, son chat, machin. Et moi, même mon orteil, il est pas sur son Insta, je vais être
mais
en
déjà
mode,
c'est
là.
Un red flag, un mec qui s'expose trop.
Ah oui, moi
trop.
Ça m'intéresse pas.
Beaucoup
mais
trop.
Admettons.
Mais non, non, non.
Non,
soit elle admet pas.
Non, genre, moi non, je sais que sur mes réseaux, je posterais pas forcément. Enfin, genre, je serais pas le genre de meuf à faire un post avec mon mec. Si demain je fais une story, il y a son bras à gauche, il passe, oui, je m'en
oui,
fous.
Ouais, ouais.
Mais,
moi,
mais c'est vrai que souvent la démarche,
privée,
c'est plus
pour le
montrer que ouais. parce que t'es contente du moment en fait.
Mais oui. en fait, moi je pars du principe qu'il y a trop de jaloux, trop de trucs, trop de mauvais, trop de jaloux. Petite story privée entre proches, entre gens qui se connaissent, etc. Mais à la vie, enfin, au monde entier, c'est trop dangereux. Vous avez ouais. vu ce qui s'est passé avec la femme de Nino, là? Cette
non.
semaine, Nino, pour la première fois de sa vie, il parle de sa vie privée. Nino okay. ne fait jamais d'interview, Nino ne raconte jamais rien. Il fait 2 stades de France le week-end dernier et il passe une dédicace à sa femme. Il dit okay. derrière chaque homme se cache une grande femme, dédicace à ma femme et mes enfants. Le monde entier est choqué. Quoi, Nino, il est marié, etc. Maintenant, les détectives
les gens,
d'Instagram.
Ils ont trouvé sa femme
en 24 heures, il y avait son Insta qui était diffusé, etc. Et tout, etc.
Mais même, il y avait l'Insta de son ex-femme. Enfin,
ils
genre,
ont comparé
ils ont
l'ex
à,
sa, à sa. Donc là, sa femme,
c'est
qui est quand même la mère de ses enfants, tu vois.
Ouais.
La meuf, elle a dû faire une story parce que du coup, elle est, si je dis pas de bêtises, portugaise algérienne.
Okay.
Donc, il s'est mangé une sauce, t'es pas
oh.
avec une femme noire, etc.
Oh là là.
Et tout. Donc, elle a dû faire une story en mode, mais on s'aime en fait, c'est quoi votre problème, tu vois. Et, et après, elle a tout supprimé de ses réseaux parce que la meuf était pas connue jusque-là, tu vois. Il faut pas montrer
non, mais après,
ça, c'est
là,
le problème.
On parle d'une dimension qui est différente.
Oui,
et les
oui,
gens qui sont fous, enfin, c'est les gens qui sont fous,
mais
bah,
oui,
ils
mais
sont allés tout chercher.
Mais c'est pour protéger son couple. Qu'il faut se protéger
oui,
des fous
oui.
parce que
mais après c'est aussi dommage de se dire ah oh, je vais m'empêcher de faire un truc que je veux faire genre elle qu'elle se dise je suis obligée de supprimer tous mes réseaux parce qu'il y a des gens qui sont malades.
C'est fou. Mmh. c'est une dingue. Enfin, la
je
pauvre,
c'est,
quoi.
C'est horrible,
ouais,
tu vois.
C'est ça. Mais du coup, on parle de couple. Et en parlant de couple, justement, il y a plein d'influenceurs connus sur les réseaux aujourd'hui qui se sont fait connaître, notamment dans les télé-réalités. Il y a quelques années, je pense à Thibaut et Jessica. Il y en a plein, le couple Manon et Julien Tanti, des Marseillais. Aujourd'hui, c'est un business pour ces couples. Bah, ils travaillent ensemble, ils créent du contenu ensemble, etc. Avant, on les voyait se former à la télé. Maintenant, la télé-réalité, c'est sur les réseaux, Leïla.
Ouais, parce que faut oublier les tournages encadrés de TF1 ou W9, les émissions montées, validées, surveillées par le CSA. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la télé-réalité, elle vit surtout sur Snapchat. Et en gros, c'est plus une fiction scénarisée, c'est des vraies personnes dans leur vraie vie qui exposent leur quotidien en direct à des centaines de milliers de followers. Et en gros, pas de montage, pas de filtre, ou presque. et surtout, pas de règles.
Ouais, et ce phénomène, il est incarné par des figures qui sont très connues sur Snapchat en France. Je pense à Nasdas, Sebi Daddy, ou même des créateurs de contenu des formats comme HMI House.
Ouais, en fait, eux, ils ont beaucoup plus d'audience que certaines émissions de télé traditionnelles et ils captent surtout l'attention des jeunes, en fait.
Ouais, et surtout Nasdas, lui, c'est le premier Snapchatter français, c'est une dinguerie.
Donc lui, il est de Perpignan et en fait, il s'est fait connaître en snappant la vie de son quartier, qui est un des plus pauvres de France. Et en gros, il filme tout, les bagarres, les humiliations, les embrouilles, mais aussi des moments de générosité réel entre guillemets, donc il distribue de l'argent, il aide les gens de son quartier, etc.
Pour moi, ça c'est ostentatoire à mort.
À quel point c'est authentique?
Mais bien sûr, c'est pas authentique du tout, tu vois. Et en fait, il a vraiment explosé le jour où il a publié sa carte bleue sur les réseaux sociaux. Vous vous en rappelez ou pas?
Ouais, je m'en souviens.
Moi, j'ai pas Snapchat.
En gros, il avait fait un truc en disant. Écoutez, demain, je poste ma carte à telle heure. Faites les commandes que vous voulez. Dessus, il y a 100 000 euros.
Ouais. Mais il est tellement riche.
Et en gros, premier arrivé, premier servi, tu vois. Et il l'a fait deux fois et ça a fait bugger plein.
Et c'est vrai, du coup, en plus.
Oui, il y a des gens qui ont fait des commandes et tout.
C'est super vrai.
Ok.
Mais il y a aussi plein de commandes qui ont été bloquées parce que les sites, ils comprenaient pas pourquoi la même carte commandait plein de trucs, tu vois.
Bah oui, tu m'étonnes.
Mais du coup, vous connaissiez?
Oui, ou Nasdas, ouais.
Et ça vous dérange ce genre de truc ou pas?
Ça me dérange de ouf. Moi, je comprends pas. Pour moi, il instrumentalise les gens. Il y a des.
Mais même il instrumentalise le handicap, plein de choses, tu vois.
Asia, ouais. C'est vrai qu'elle est handicapée ou pas?
Ah, j'en ai aucune
je
idée.
Je sais, parce que c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, mais il y a plusieurs profils dans sa team et t'as des gens. Enfin, limite, je me demande des fois si c'est pas
il
pour qu'on se foute de leur gueule ou quoi.
Et
tu
même,
vois,
il instrumentalise vraiment la misère sociale. Genre,
c'est ça, c'est
tu
gênant.
Tu vois, il a vraiment envie. Que les gens se disent « Ah, dans son quartier, c'est des cassos. Regardez comme ils sont marrants. »
C'est un sauveur.
Mais oui, comment je vais les sauver parce que je suis super riche et tout.
Et comme si c'était l'argent qui allait tout résoudre.
Ouais,
et
c'est
comme
ça.
Si, enfin, c'est, bref.
Ouais.
Et en gros, le fait de la jouer super généreux et tout, c'est bien. Mais je trouve que, en fait, c'est surtout... C'est juste fait pour générer des vues, c'est pas fait pour vraiment aider les gens. Si
je pense booster son ego à lui aussi.
Bien sûr.
Genre montrer, regardez ce que je fais pour les autres et tout.
Ah, mais j'ai vraiment des millions de vues. Chaque jour, chaque snap.
C'est la personne la plus suivie en France sur Snapchat. Et en gros, en plus de ça, il filme des scènes qui, à la télé, seraient interdites. Donc on n'a aucune modération. Il y a des violences verbales, sexistes, des rapports de domination. Et en fait, Snapchat ne régule rien du tout. Et son contenu, il touche vraiment une audience massive et surtout des très jeunes.
Et grave. Mais tu vois, à l'opposé, toujours sur Snap, on trouve HMI House. Donc en fait, ça, c'est une maison de créateurs de contenu qui est organisée comme une villa télé-réalité version TikTok ou Snapchat avec des épreuves carrément.
Ouais, en gros, eux, c'est des jeunes influenceurs qui sont réunis dans une grande maison, dans un autre pays. Enfin, en gros, ils voyagent, etc. Et ils ont un seul objectif, c'est faire du contenu, créer des embrouilles, buzzer. Et en gros, le format, il reprend un peu les codes de la télé-réalité classique, tu vois. Genre, en gros, villa, des défis, des épreuves, des histoires d'amour, des clashs et tout. Mais avec la liberté des réseaux sociaux, donc les créateurs ils filment tout eux-mêmes. Donc du coup, pour la même journée, t'as, admettons, ils sont 10, t'as 10 versions de leur journée, tu vois. Donc ça dépend, si toi t'as ton préféré, tu suis celui que tu préfères, etc. Et du coup, ils font même des lives et c'est sans censure et le public il adore ça. Il y a des drames, des trahisons, des coucheries sous-entendues, tout y passe. Mais c'est quand même beaucoup plus sain que Nasdas parce que c'est des gens qui ont décidé d'être là. Ils se cachent pas de juste être ensemble pour créer du contenu et générer plus de vues.
Et en plus,
ensemble.
Ça peut aussi un peu ressembler à genre des groupes de potes parce qu'on s'inspire tellement
en fait,
de la télé-réalité dans le langage, dans les embrouilles, machin.
Et en fait, il y a plein de gens qui suivent ça comme on suivait nous, Secret Story à l'époque, sauf que c'est disponible du coup 24h/24, sans montage et avec plein de points de vue différents.
Il y a un autre mec sur Snap qui cartonne en France, c'est Sebi Daddy. Bon, alors lui, c'est un ex-candidat de télé-réalité, donc il a fait Les Princes de l'amour, enfin, que ça.
Bref.
et j'en passe. Et lui, il est quand même assez atypique. Hein.
Ouais, bah lui, juste son personnage, c'est juste être un millionnaire et un connard. Ouais. En gros, une caricature de Sugar Daddy. Il est arrogant, il est provocant, il enchaîne les vidéos, il insulte ses ex, humilie ses partenaires, il exhibe son argent. Et en gros, sous prétexte d'humour, parfois assumé un peu comme du second degré, et Sebi Daddy normalise des discours sexistes, il entretient une image toxique des rapports hommes et femmes, et pourtant il cartonne et ses stories elles font des centaines de milliers de vues par jour en fait.
Ouais, mais pourquoi ça marche autant?
Déjà juste parce que c'est en accessibilité totale, il n'y a pas besoin de télé, pas besoin d'abonnement comme Netflix, etc. On a juste besoin d'avoir son téléphone, il y a une dizaine de stories par jour, voire plus, et même le langage est familier, c'est des gens de la vraie vie, il n'y a pas de filtre. Et en fait, ouais, c'est ça qui plaît.
Non, mais le problème fondamental, en fait, moi, je pense que c'est vraiment l'absence de régulation, tu vois.
C'est ça, parce qu'à la télé, on a le CSA qui encadre tout. Mmh. Parce que même s'ils ne suppriment pas des scènes, on sait que tel programme est adapté à telle tranche d'âge, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Et ça éclaire juste un peu. Donc, bref, ils encadrent tout. Je disais, les heures de diffusion, la protection des mineurs, les interdictions de certaines images. Alors que sur Snapchat, on n'a rien du tout. Et pas de signalement automatique, pas de vérification d'âge, pas de modération proactive. Et en gros, conséquence, les créateurs, ils savent qu'ils peuvent tout montrer ou presque, ou au pire ça sera supprimé plus tard, mais comme on sait sur internet il n'y a rien qui disparaît vraiment
à part les meufs quand elles sont dénudant.
Ouais, voilà,
c'est vrai.
Et pour rester visible, du coup il doit faire beaucoup plus que les autres, plus de clash, plus de trash, et c'est une course au buzz où le contenu c'est le contenu le plus extrême qui gagne. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la télé-réalité Snapchat, c'est plus de la télé et c'est plus vraiment de la télé-réalité, enfin de la réalité.
C'est ni de
aussi.
La télé ni de la réalité.
Exactement, en fait. C'est juste un nouveau genre assez hybride, genre à mi-chemin entre le théâtre, le vlog, la performance marketing. Et du coup, les influenceurs, ils vivent pas normalement, ils vivent juste pour être filmés et pour créer du contenu et pour maintenir l'attention.
Exactement, mais c'est toujours ça, c'est la course à celui qui fera le plus de trucs.
Ah oui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de trucs. Et ils font en sorte de s'étendre sur plein de plateformes. Là, il y avait eu un scandale avec Nasdaq. Il y avait une fille de la team Nasdaq, Asia, dont tu parlais. Donc
tellement des scandales tous les jours avec eux que je sais pas duquel tu parles.
En fait,
tous
pendant
les
un live Twitch, elle a montré ses seins parce qu'ils faisaient le challenge en gros de la plus belle fille de la villa. Et elle, en fait, elle a pas prévenu, elle a retiré son t-shirt et du coup ils ont été ban de Twitch ou je sais pas quoi. Mais pour te dire, genre, pour qu'on vote plus pour elle, elle s'est dit mon visage fera pas
forcément. Franchement, Flo, si t'as envie d'être outré, vas-y, mets ma snap et regarde.
Franchement, moi, la team Nasdaq, en vrai, ça me terrifie. Pour moi aussi, qu'on se retrouve tous derrière nos écrans à humilier des gens, enfin à regarder des gens se fout de la gueule,
et même quand t'as pas, ça te paraît lunaire du coup d'entendre
c'est catastrophique, c'est vraiment l'apologie de rien, genre
mais au-delà de ça, c'est vraiment le cirque, tu vois, genre il prend vraiment les gens pour des bêtes de foire, et c'est je ramène le plus atypique possible, tu vois. Dans ma troupe il me faut un nain, il me faut un handicapé,
Black
Mirror, on dirait trop l'épisode avec les pubs où en fait le gars s'est inscrit sur un site pour avoir de la thune et genre il s'enlève une dent,
clairement ça, mais tu vois juste que Black Mirror c'est un peu plus exacerbé et tout, mais c'est clairement ça. Franchement, ça fait tout à fait penser à ça.
Enfin, même quand tu vois que il y a une petite, tu sais, c'était l'histoire du c'est une fille qui était escorte quand elle était petite et elle était mineure à ce moment-là et que tout le monde la slut shame alors que
c'est des vrais
parcours de vie, tu vois.
Ouais, avec la misère qui est montrée à son apogée, tu vois. 19h22, on est en direct, on est sur Move, on parle des réseaux sociaux mais c'est aussi l'émission où on vous dit tout ce qu'on pense des sujets abordés.
Green flag. Red flag.
On va commencer par les red flags, justement, par rapport aux réseaux sociaux, à cette quête de validation, etc. Florence, je t'écoute.
Moi, c'est notre propension à scroller. Moi, je le vois en ce moment où vraiment, je pense, j'ai jamais autant été sur mon tel. Et à tel point que j'ai déjà la marque sur le petit doigt, là, tu sais, qui se forme avec le téléphone.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, moi aussi.
Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Enfin,
c'est quoi ça?
Il y a une petite bosse. Parce que tu tiens ton téléphone comme ça.
À force de tenir le téléphone comme ça.
C'est pas très radiophonique, mais du coup, oui, regardez votre petit doigt et vous verrez si vous tenez trop votre tel. Parce que...
Ah ouais.
Ça crie là, toi aussi bosse.
Bah ouais, moi j'ai carrément mal des fois à la main.
Mais là,
bah
justement, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir une tendinite du petit doigt. Ouais. Tellement genre.
Moi, je l'ai tous au niveau du pouce, mais c'est horrible.
Et c'est terrifiant. Oh,
c'est terrifiant.
Je suis terrifiée par moi-même, mais il faut que je fasse une pause.
Mais je te suis, mon red flag, c'est mon temps d'écran.
Ouais.
Moi, j'ai honte 7 heures de moyenne.
Mais je comprends.
Et vous?
Mais moi, à chaque fois, je me rassure. Ouais, moi, ça doit être 7 heures. Je me rassure en disant non, mais j'écoute tout le temps Spotify.
Non, mais ça doit être ça. C'est quoi ton red flag, du coup?
Moi, c'est l'angoisse que les réseaux peuvent procurer. Et surtout, le. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une dimension pro avec nos réseaux. Et. Ouais, moi, ça me fait chier que ça soit lié à mon travail.
Et qu'on n'ait pas le choix. Il y a un truc maintenant où c'est contre nous. C'est
ouais,
genre,
ça veut dire si tu veux pas montrer ta tête, tu perds des opportunités. Mmh. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont pas compétents du tout et juste qui sont actifs sur les réseaux et du coup qui ont plus d'opportunités. Enfin, en vrai, ça met dans une position, moi, qui me saoule, par exemple.
Surtout que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, il y a 2-3 ans, j'avais rien. Ouais. Et en fait, c'est un taf. Enfin, genre, c'est vraiment bien sûr.
Ah oui, et puis ça te prend énormément de temps. La création de contenu, il faut pas rigoler avec ça.
Et moi,
c'est
je suis d'accord avec le truc de ça te rend un peu parano, un peu. Tu te demandes, mais alors, est-ce que.
Et puis, tu dois te mettre une certaine rigueur parce qu'il faut que tu postes là, tel jour, il faut que tu crées de l'engagement, il faut que tu aies des postes.
Souvent,
et quand ça prend pas, tu peux déprimer.
Même, moi, je trouve que surtout c'est pour rien parce que demain, si j'ai 15 000 abonnés et qu'il y a quelqu'un qui vient me démarcher pour le taf et que je fais pas l'affaire pour le taf, que j'ai eu 15 000 abonnés ou zéro, ça sera la même chose.
Bien sûr.
Donc, moi, c'est pour ça que je m'investis pas là-dedans.
Mais c'est relou parce que quand tu lances un projet, en réalité, t'as pas le choix parce qu'aujourd'hui, ça passe par ça en premier. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. Parfois, t'as des gens, ils ont beaucoup plus de visibilité alors qu'en réalité, toi aussi, tu fais un truc super cool et tout. Tu te dis, mais
oui,
vas-y,
c'est pas du tout juste, mérite, en fait. Quoi.
Et même maintenant, ce qui est fou, c'est que ça touche tous les métiers parce qu'on a tendance à croire que c'est trucs artistiques, tout mais je vois genre des plombiers qui font des pubs, c'est un peu drôle, où d'un coup ils trébuchent sur un savon, ils sont genre regardez-moi.
Il faut juste que tu fasses un buzz et c'est bon, t'as une visibilité, ton business
après,
il décolle.
Encore, t'as pas d'engagement forcément aussi, c'est pour ça que c'est contradictoire, il y a un truc de.
C'est aléatoire. Pas parce que tu fais un pic de buzz sur une publication
que ça va durer sur le long terme.
Que les gens vont s'abonner, peut-être que les gens ils vont juste liker ce truc-là.
Carrément. Bon, il y a quand même des green flags, des trucs positifs dans l'utilisation des réseaux sociaux, Florence.
Moi, c'est avec ce truc de pas protection, mais j'aime bien sur Instagram. Qui est quand même ce truc ami proche.
Ouais, la fonction qui permet de partager quelque chose uniquement avec tes amis.
Et franchement, je trouve ça marrant parce qu'en plus, il y a plein d'usages possibles. Tu peux à la fois juste mettre les gens que tu connais, comme tu peux mettre tes amis très proches, comme tu mets une personne.
Tu fais une story pour que ou une personne soit la photo que t'avais envie de poster.
C'est très marrant du coup parce que je trouve ça redynamise un peu le truc de à la base c'était quand même fait pour être un album photo avec tes amis
de
et
ouf.
Du coup je trouve ça cool qu'il y ait ça parce que ça te renvoie.
Mais maintenant tu peux même poster en définitif un ami proche.
Oui, c'est quand même cool parce que ça garde une forme de authenticité
et d'intimité sur cette grande vague des réseaux. Et toi?
Moi ça suit ce que tu dis. Là j'ai mis mon compte en privé depuis genre 1 mois et demi, 2 mois. Ma vie est trop cool.
Tu te dis pas qu'il y a des gens malveillants qui viennent fouiller, regarder, machin.
Ouais, moi, c'est même pas histoire de fouiller, mais juste, ça me fait chier de mettre une story et qu'il y ait des gens que je connaisse pas qui répondent ou qu'il y ait trop de gens que je connais pas qui regardent.
Ouais.
J'ai fait un petit tri. Ma vie est géniale. Peut-être que je le remettrai en public.
Ta santé mentale avant tout, ma belle.
Voilà, si j'en ai besoin, mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe.
Okay.
Et toi?
Moi, c'est le fait que ça nous permette de renouer avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des gens à l'étranger, de la famille, tout ça. Par contre, c'est trop cool parce qu'en fait, tu peux parler avec, je sais pas, tes cousins, cousines qui sont au bled et tout, alors que tu les vois pas forcément tout le temps. Juste ça, c'est cool. Et retrouver des gens qui ont compté pour toi quand t'étais plus jeune, etc. Et ça, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de frontières. Voilà.
Ouais, mais tu peux vraiment enquêter. Genre.
Ouais, pour le coup.
Tu peux stalker.
Tu peux stalker, mais le stalk, je le vois pas d'un bon œil pour le coup. Ça, je trouve ça très commère, très curiosité mal placée, tu vois.
Mais on stalke tous.
Mais on stalke absolument tous. Mentez pas. Même vous qui nous écoutez, vous stalkez. 19h27, on est en direct de La Pluie et le Beau Temps. Pour la suite du son, bien évidemment, qu'on reste dans le thème. Angèle, victime des réseaux, c'est tout de suite sur Move.
C'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne pas envie. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. You make me feel, you make me feel. As I make you feel, well you make me feel. Like a big shit. Like a big shit. You make me feel, you make me feel. As I make you feel, well you make me feel. Like a big shit. Like a big shit.
Angèle, victime des réseaux à l'instant sur Move.
Jusqu'à 21h.
Sauf Spencer.
Florence.
Leïla.
La pluie et le beau temps.
Il est 19h30, on est en direct, on est sur Move. C'est La pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi qui débriefe l'actu culture et société. Et ce soir, on vous parle de la place des réseaux sociaux dans notre société. Il est vrai qu'on vit dans une ère où l'usage excessif de ces réseaux contribue clairement à des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression et même la dépendance, notamment chez les jeunes. Si au départ, les réseaux sociaux ont été créés pour se connecter avec les autres, ils sont aussi malheureusement devenus au fur et à mesure du temps des outils qui favorisent la dépendance comportementale. Alors, d'où est-ce que tout ça est né ? Je vais vous parler du tout premier réseau social de l'histoire.
Hier et aujourd'hui.
Alors, le tout premier réseau social moderne est généralement reconnu comme étant Six Degrees. Donc, il est sorti en 1997. Vous avez déjà entendu parler de SixDegrees.com?
Absolument pas.
Parce que c'était plus un... C'était pas des applications, vous doutez bien, mais c'était plus une plateforme, genre un site internet. Et c'était la première fois, en fait, qu'un site permettait de construire un réseau visible d'amis et de connexions personnelles en ligne. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui Instagram, Facebook, LinkedIn, quoi.
Ok, mais il y avait vraiment rien eu avant ça, du coup.
En fait, il y avait déjà eu des plateformes, genre des espèces de sites internet, mais... Ces sites-là permettaient des interactions sociales, mais aucun ne proposait la création de profils personnels interconnectés comme Six Degrees, ce qui se fait beaucoup maintenant, quoi.
Et du coup, le concept de la plateforme, c'était quoi exactement ?
En fait, quand Andrew Wainwright l'a lancé en 97, il l'appelle Six Degrees en référence aux 6 degrés de séparation, donc ça va être technique. C'est en référence aux 6 degrés de séparation qui dit que toutes les personnes sur Terre sont connectées entre elles par une chaîne de relations qui ne compte pas plus de 6 étapes.
Ok.
En gros, on est tous connectés. On a tous genre 6 personnes en commun.
Ah, ok, ouais.
Vous avez capté ou pas ? Donc en fait, l'idée via Six Degrees, c'était que chaque humain pouvait être relié à une autre personne.
Comme le truc, on est tous à 5 mains. Exactement. De quelqu'un. Genre.
Exactement. J'aime trop quand je rencontre quelqu'un, dire viens, on essaye de savoir qui on veut connaître.
Exactement.
En
et tu sais, okay. Après, ta photo. T'as un nid comme ça, et tu vois, ça fait comme une espèce de toile d'araignée, en gros, tu vois. Et l'idée, c'était que chaque humain pouvait être lié à une autre personne via 6 connaissances mutuelles. Et pour le découvrir, en fait, il fallait se créer un profil personnel en ligne en rentrant son nom, son emploi, ses centres d'intérêt. intérêt. Une fois inscrits, les utilisateurs pouvaient ajouter des amis à leur réseau. Et c'est là qu'en fait, t'allais dire, mais attends, mais lui, je connais, etc., etc. Et après, bah, forcément, les amis pouvaient aller sur le profil de leurs amis, ajouter leurs propres contacts. En fait, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui.
Mais trop
quoi.
Bien, ils pouvaient s'envoyer des messages ou pas?
Ouais, et c'était la première fois qu'on avait une plateforme aussi interactive. Là, c'était, c'était tout nouveau. Cool. Ce qui est pour nous aujourd'hui est complètement logique. En fait, à l'époque, en 97, ça n'existait pas, tu vois. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'étaient pas encore suffisamment nombreux à adhérer. Ils voyaient ça en bizarre, ils avaient raison. Et en plus de ça, à l'époque, Internet n'était pas prêt à supporter un tel réseau à grande échelle. Ça faisait beaucoup. Conclusion, malgré que le fait que c'était visionnaire et révolutionnaire, Six Degrees ferme en 2001. Mais quelques années plus tard, d'autres réseaux font leur apparition, dont un qui a littéralement marqué notre adolescence. Lila, tu vas nous parler des fameux Skyblog.
Ouais, on va parler vraiment du site qui a chamboulé les ados des années 2000.
Ah, oui.
Donc, Skyblog, tu l'as dit, c'était vraiment l'espace d'expression jusque dans les années 2010 environ. Mais malheureusement, la plateforme a fermé, mais elle a vraiment influencé nos réseaux actuels.
Et ouais, Skyblog a été lancé en 2002 par Skyrock et c'était une plateforme gratuite qui permettait à chacun de créer son propre blog en quelques clics avec des options de personnalisation simples, mais c'était hyper efficace, franchement. Hey, c'était un délire.
Ouais, surtout qu'on parle d'une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Donc c'était vraiment là où on pouvait s'exprimer sans contrainte, un peu comme un journal intime, enfin pas trop intime, numérique et vraiment ouvert à tous.
Grave.
On pouvait écrire sur des sujets aussi variés que l'amour, la musique, les amitiés, les coups de cœur du moment ou juste poster des photos de soi comme sur Insta, quoi. Mais c'est aussi là que se sont créées les premières communautés autour de passions communes, que ça soit des groupes de fans, des discussions autour de séries, de films et même, ou même de personnalités publiques. Est-ce que vous aviez un compte Skyblog?
Bien sûr. Je m'appelais So du 69, c'était mon premier.
J'adore.
Parce que de Lyon, du coup. Et après, c'était la folle du 69. Elle est
Mon Dieu, oh là là, c'est si hot. Genre,
bah non,
si chaude de ta région.
Bah, pas du tout, mais t'es malade, quoi.
De la folle
mais
du
Lyon,
69.
Mais Lyon, c'est 69, région Rhône-Alpes. Mais en fait, quand je dis ça aujourd'hui aux Parisiens, ils sont en mode...
La folle du 69
avec une photo profil comme As avec le montage blingy. Ah non, je peux pas. C'était quoi ton montage?
Mais moi j'avais rien.
J'avais
pas.
T'avais pas?
Non, j'ai jamais Skyblog.
Punaise, non mais Skyblog c'était
ça
la
avait
vie.
L'air bizarre, franchement.
Ah oh, c'était ouf. La vie. Et en plus ça jouait grave.
Mais moi j'ai l'impression que il y a eu nos premières influenceuses sur Skyblog. Genre il y a plein de meufs que j'allais voir genre sur Skyblog. Et quand les réseaux se sont développés, je les ai suivis, genre, et maintenant elles sont
influencées.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient parler avec des stars. Genre,
ouais.
Mais c'était pas vraiment des stars déjà. À l'époque, pas des stars. Ouais. C'était pas des stars, mais
Pour moi, c'est les premières influenceuses, vraiment, c'est les meufs de Skyblog.
Oui, c'est ça, les cyber. Et en fait, les utilisateurs, ils suivaient du coup les blogs d'autres personnes, tu vois, et on pouvait se laisser des commentaires, on pouvait avoir des messages privés. En fait, il y avait des liens qui se formaient avec des inconnus qui partageaient les mêmes goûts à l'époque.
Ouais, en gros, c'était vraiment le lieu de rencontre virtuelle. Il y a des véritables amitiés qui pouvaient se nouer bien avant Facebook et Insta.
En tout cas, avant, on aimait trop se parler pendant des mois par message.
De ouf. Bah, surtout quand t'es jeune, t'as envie d'être tout le temps avec tes amis, d'être collé et tout. Et en gros, la particularité de Skyblog, c'était vraiment l'option Skyblog public. Donc, ça, c'est un peu l'ancêtre des influenceurs, quoi. Et ça permettait aux utilisateurs de découvrir des blogs selon leur propre centre d'intérêt. Et les utilisateurs, ils passaient leur temps, du coup, à naviguer d'un blog à l'autre en découvrant toujours un nouvel univers. Et c'était un peu une sorte de grande foire numérique où chacun exposait un peu une part de soi.
Et c'est important aussi de se souvenir de ces codes visuels dont tu parles et de son langage particulier, parce que la personnalisation des blogs, c'était hyper important. Ça représentait vraiment un moyen pour chaque utilisateur de se distinguer des autres. On faisait du codage.
Oui, les blogs, ils étaient décorés avec des images de fond, des gifs animés, des musiques qui se lançaient dès que tu ouvrais une page, etc.
Et c'est dingue,
et même les
innocent,
pseudos,
quoi.
Même tu sais, admettons, moi je me rappelle, mes copines elles écrivaient Leïla, genre L-E avec un accent.
Avec un 4 et
avec
Mais tous les réseaux en débutant c'était mignon, genre même Twitter, aujourd'hui c'est devenu vraiment le dam, mais avant on mettait genre j'écoute cette musique.
Oui, mais même sur Facebook au tout début.
Now playing.
Mais c'est fou. Non, mais en vrai, Skyblog, ça a ouvert la voie à ce que seraient les réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'était nos réseaux sociaux de l'adolescence.
Et même son héritage, il se retrouve dans plein d'aspects des réseaux modernes, comme juste l'importance de l'image perso, les communautés en ligne, la culture du partage personnel et de la création de contenu. Et en fait, si Skyblog a connu ce succès-là, c'est qu'il répondait surtout à un besoin fondamental juste de s'exprimer et de se faire entendre et surtout d'appartenir à une communauté. Et surtout dans un monde où les réseaux sociaux actuels, ils sont souvent dominés par les marques, les influenceurs et les algorithmes super complexes, Skyblog, ça représentait un peu une forme beaucoup plus authentique de partage. Mais avec du coup l'apparition de tous les réseaux que je viens de citer, Skyblog, il a perdu peu à peu de ses utilisateurs. Et le site, du coup, s'est arrêté de fonctionner en 2014.
Et quand ça s'est fermé, c'était un deuil pour nous tous, les enfants des années 2000.
Mais est-ce que quand ça s'est supprimé, les pages se supprimaient aussi?
Elles se sont supprimées l'année dernière.
Juste l'année dernière. Parce que tu pouvais les retrouver encore pendant très longtemps.
Ouais. Attends, ça, c'est marrant, je pense.
Ah oui.
Et l'année dernière, ils ont tout. J'espère que les gens qui avaient un compte, ils sont allés tous screen parce que je trouve que c'est trop de souvenirs.
Ouais, de fou. C'est vraiment ton album photo de l'enfance en ligne. Quoi. Ça a grave marqué notre jeunesse. D'ailleurs, on en parlait à l'école, etc. On voulait tous avoir le blog le plus stylé. Et en fait, on était déjà dans le codage internet et tout. C'est fou pour avoir des textes en rose ou quoi. C'est incroyable. Est-ce que Florence, cette quête de popularité, c'est quelque chose qu'on a intégré déjà très jeune?
Bah grave, dès la cour de récré finalement, justement. Et d'ailleurs, nos skyblogs disaient beaucoup de qui on était. Et si on n'en est pas pareil, ça disait quelque chose de nous. En tout cas, à cette époque, on dramatisait tout. Et notre pire cauchemar, c'était de se retrouver à manger toute seule à la cantine ou d'être la dernière choisie dans une équipe parce que du coup ça voulait dire qu'on n'était pas très populaire, ce qui était notre but ultime. D'ailleurs, ça ne nous venait pas de nulle part, sûrement qu'on était influencé par les séries américaines avec la figure de la pom-pom girl qui faisait sa loi. Et c'était toute une échelle sociale comme ça qui descendait jusqu'à la bolosse, souvent harcelée ou invisible. Vous étiez qui, vous, dans cette cour de récréation?
Collège ou lycée? Parce que c'est primaire, collège, lycée?
Collège, lycée, ouais, plutôt. Je pense que c'est vers là que ça commence.
Moi, collège, lycée.
Avec les filles cool qui rigolent tout le temps.
J'adore.
Ouais. Celles qui sont bon délire, quoi.
Je sais pas, je crois que j'étais celle qui je parlais à personne. Genre, j'avais mon groupe de copines et je parlais à personne d'autre, genre.
Oui,
mais mes copines, elles étaient cool. Tu avais pas envie d'aller leur parler?
Non, j'avais pas envie.
Je l'aime trop.
Et toi? Non, moi, mes copines, elles étaient cool. Mais genre, moi, j'étais la meuf du groupe. Tranquille, de quand il y avait quelqu'un qui arrivait, je partais.
Mais moi, je pense que je suis un peu comparable à ça parce que si on prend l'imaginaire des séries américaines, j'aime trop dire qu'il y avait la fille ultra populaire qui brillait à fond et tu sais, il y a toujours ces deux copines. Genre, franchement, j'étais un peu plus ce genre-là.
T'étais
de.
Elle.
Celle qui est là-bas, là.
Ouais, un peu. Mais bon. Et pour y accéder, malgré moi, et je pense comme nous toutes, on avait assimilé des codes, genre des codes vestimentaires, etc. Parce qu'être populaire à cet âge, c'était tout un imaginaire. Il faut être perçu comme belle pour une fille. Aussi être développée, s'habiller tendance, avoir des gars à ses pieds et être rebelle, c'est-à-dire sortir, fumer, pas travailler, machin. Et pourtant, contrairement à la vie d'adulte hyper performative, ado, cette entre guillemets médiocrité, c'est un des premiers symboles de réussite sociale.
Et apparemment, on gagnerait à déconstruire notre perception de cette reine du lycée.
Bah ouais, dans le sens où, à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, au sujet de l'exposition sur Instagram, c'est aussi le manque d'estime de soi qui pousserait à vouloir être aimé des autres lorsqu'on est au collège ou au lycée. Et il y a des études qui prouvent qu'en fait, ça rend pas si heureux que ça, puisque les jeunes qui finalement sont neutres ou un groupe un peu restreint mais soudé auraient moins de risques d'avoir un comportement dépressif que ceux qui ont un large réseau.
Après, moi j'ai l'impression que les filles dont tout le monde parlait dans mon collège, c'était jamais en bien, tu vois, ou en
au lycée. Elles étaient connues pas pour les bonnes choses.
En tout cas, moi jamais je me suis dit, oh, j'aimerais trop que tout le monde parle de moi, j'aimerais trop que tout le monde.
C'était hyper rude parce que c'était hyper des trucs sexualisants.
Généralement, c'était les meufs qui avaient des mecs, qui se tapaient des mecs, qui était pas coincé et tout, alors que quand on est gamin, c'est tu vois, c'était moi, j'ai encore les prénoms et les noms de famille de ces filles là et je suis sûre que vous aussi vous en souvenez, tu vois.
Oui.
Et en plus, être populaire, ça aurait des conséquences sur le long terme.
En fait, a priori, ce seraient des gens qui auraient une plus grande difficulté à se réadapter à de nouveaux contextes sociaux par la suite. En fait, le truc, c'est qu'ils auraient été tellement valorisés, tout leur aurait été acquis si facilement qu'ils auraient fait peu de chemin personnel finalement. Et ça pourrait mener à adopter des comportements extrêmes pour se faire remarquer, donc certains deviendraient alcooliques, toxicomanes ou même criminels.
Et à ça, ça joue
les anciens et tout.
En plus de ça, il y a la nostalgie de cette période, comme si rien ne pourrait plus jamais l'égaler, tu vois.
Et moi, je le ressens avec certaines personnes qui sont vraiment en mode non, mais quand j'étais au lycée, enfin, qui sont vraiment.
Il y a des gens qui vivent vraiment. J'en ai déjà rencontré des gens avec qui j'étais au lycée qui sont vraiment
bloqués dans cette période.
Un tel, il est devenu. En mode, je sais pas, on a fait nos vies.
C'est toujours comme ça,
Mais bon, là où ceux qui étaient moins populaires auraient plus eu tendance, du coup, à avoir besoin d'une revanche, entre guillemets, tout comme ils auraient plus développé d'autres aspects d'eux à l'image d'une personne qui est timide et qui a cessé de travailler sur sa personnalité, du coup, sachant que la popularité adolescente, ça repose aussi vachement sur le fait de jouer le jeu de la conformité, là où adulte, on valorise de plus en plus les différences. Après, ça veut absolument pas dire que tous les BG de l'époque sont en prison avec 11 enfants dans la nature. Mais en fait, c'est quand même intéressant.
Généralement, ils sont plus trop BG en plus. Parce que vu les critères qu'on avait quand on avait 14 piges.
Ouais.
C'est vrai qu'en général, ils sont pas très beaux.
Tu regardes, tu dis, mais je suis une ouf, moi, j'étais amoureuse de lui.
Non, ou sinon, tu dis, non, mais il devait être beau avant. Genre.
En 2006.
Je te jure, de ouf. Après, c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'on peut envisager un certain nombre de facteurs sociaux par rapport à notre popularité à l'école et plus généralement la manière dont les autres nous ont considérés. Mais du coup, vous êtes du genre à stalker vos anciens camarades, avoir un peu, il est devenu quoi, machin, machine.
Moi, des fois, oui, quand je suis avec mes amis du lycée, je suis en mode.
Mais un tel, il est devenu quoi?
De ouf.
Mais il fait ça, machin, je suis en mode.
Et vous avez des bonnes surprises en mode, oh, mais tiens, lui, on serait jamais dit que ici, et à l'inverse, le truc de la descente aux enfers.
Ouais. Ouais, bon. En plus, moi, j'ai grave quitté la région, donc je suis en mode, oh, ça date! Je suis trop contente d'avoir des nouvelles des gens, tu vois, pour le coup.
C'est trop marrant quand même, exercice. Moi, à un moment, je m'étais vraiment posée et je disais, allez, je fais toute une liste de.
Quand j'étais en
6ème, c'est fou, c'est trop ce truc-là de.
Real talk, il y a même pas un mois, il y a un gars avec qui j'étais au collège et en 4ème qui est décédé. Et quand je l'ai appris, j'avoue, j'ai eu un choc et ça m'a. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Et j'ai écrit à des anciennes copines du collège en mode, tiens, on s'est toujours sur les réseaux. Du coup, c'est ce que je disais, ça, c'est un green. Et on était en mode, mais non, et tout, genre dinguerie, arrêt cardiaque et tout. Genre, tu dis, waouh, mais on a 30 ans, genre, c'est horrible.
Trop
et pour
bizarre.
Le coup, ça te ramène à tes époques d'avant et tu dis.
Et moi, ce qui est fou, c'est que justement, comme j'avais pas de réseau, c'est des gens que j'ai pas gardés sur les réseaux.
Oui,
forcément.
Bah oui.
Et du coup, quand je les vois, c'est vraiment le choc de pas avoir vu la continuité. Et
oui,
genre,
oui, quatre gosses, tu mais oh, bah, à quel moment, genre.
Ou même quand il y a des gens que. Tu sais, genre, vous étiez pas du tout amis et vous nouez des liens en étant grand et t'es en mode.
Ouais.
Mais genre, qu'est-ce qui a fait que maintenant on se parle alors qu'on a vraiment passé 8 ans ensemble
comme quoi, on
dans,
évolue de ouf,
dans les mêmes écoles et tout, tu vois.
De ouf. 19h44, on est en direct de l'appui et le beau temps. C'est l'hebdo qui débriefe l'actu, culture et société. Place à nos recos sur ce premier sujet du jour.
Les recos de l'appui et le beau temps.
Alors Flo, on a quelques minutes, je t'écoute pour ta reconculture.
Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui s'appelle 10 bonnes raisons de te larguer.
Je l'ai vu, mais genre
avec
quand j'étais grave jeune.
Avec Matthew Mac quelque chose.
Ah, je sais, mais je... bah, en fait, il y en a
Kate
un qui...
Hudson.
Non.
Blonde?
Non, parce que justement, il y en a un qui ressemble au niveau du titre, mais c'est pas la même chose.
C'est quoi, c'est quoi l'histoire?
C'est vraiment, waouh, j'adore. C'est un teen movie, du coup, qui a plus de 20 ans, mais qui est pourtant toujours aussi drôle et pertinent selon moi. Ça raconte l'histoire d'un Paris où, en fait, le bad boy du lycée, il doit se dire la féministe en colère. Et en fait, son personnage, il est trop badass à elle. Enfin, vraiment, il est trop, trop cool. Et puis, même, tu te rends compte que le bad boy, il est très gentil, en fait. Et c'est très sympa. Et ça tourne justement autour de cette histoire de popularité qui exige d'être comme les autres et elle qui veut pas être comme les autres. Donc, voilà. Mais il est trop sympa, vraiment.
Ils avaient déjà, la vision. Ils voulaient pas faire comme. C'était pas des moutons.
Et je l'ai vraiment revu adulte et j'étais genre, mais oui.
10 bonnes raisons de te larguer. Et toi, Leïla, du coup
Moi, c'est une série, ça s'appelle Mood. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, c'est sur Canal ou Apple TV, je sais plus. Et en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui est chanteuse et qui fait tout pour se faire connaître et elle y arrive pas trop. Donc elle se dit qu'elle va un peu se nouer. Enfin, elle rencontre une meuf qui est influenceuse. Et en fait, à partir du moment où elle veut percer sur les réseaux avec elle, ça devient un peu la descente aux enfers parce qu'elle se rend compte que pour payer ce train de vie de beaucoup s'exposer, avoir des jolies choses, tout le temps des nouvelles choses et tout, la meuf fait aussi de l'escorting à côté.
Ce qui
arrive souvent aussi, tu vois. Et en fait, c'est surtout ce truc de ce qu'on montre sur les réseaux et ce qui se passe dans la vraie vie des femmes, comment elles sont considérées dehors et tout. Donc, super bien.
Ok, Mood, trop bien.
Ouais, en plus, la musique est cool. Donc,
ouais, je crois que je l'ai vu, c'était bien, je me souviens plus, mais c'était bien.
Ok,
et
d'accord. Bah moi, c'est un film qui est sorti en 2010, il date, mais bon, si jamais vous l'avez pas vu, c'est intéressant. C'est The Social Network. C'est l'histoire de la création de Facebook, en fait, tout simplement. C'est l'histoire de Mark Zuckerberg avec ses collègues, etc. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que dans le film, on voit vraiment les conflits juridiques et personnels qui ont suivi suite à la création de Facebook qui a pété. Et le film, il est intéressant parce qu'il soulève aussi des questions sur l'éthique, sur la propriété intellectuelle et surtout les relations humaines à l'ère numérique, tout en sachant qu'en 2025, c'est encore plus évolué
et aussi
empiré même.
Typiquement les geeks du lycée.
Ouais.
Typiquement les geeks du lycée qui eux aussi se faisaient bully
ouf.
Au collège.
Et qui souvent aujourd'hui sont
dans les crypto-monnaies.
Exactement.
Directeur de tech.
Exactement. Ça réparait les satellites.
T'as capté. Et ils ont des belles ces mêmes femmes qui à l'époque les regardaient même pas au collège et tout, au lycée. Là, j'avoue, dinguerie. Moi, j'aurais bien parlé avec Mark Zuckerberg et lui dire c'est comment quand t'étais au collège, quand tu te faisais bully. Non, parce que maintenant que t'es multimilliardaire, c'est comment ta vie à la
fin. Je pense que c'est sa vengeance, justement.
Sûre et certaine. 19h47, on est en direct de la pluie et le beau temps. Restez branchés, on revient dans un instant. La suite du son a tout son sens avec ce premier sujet du jour. Iliona, Text Back. C'est tout de suite sur Move.
J'ai peur de tout gâcher. C'est pas le trauma qui remonte. C'est juste la tendance que j'ai à me détester. C'est pas les fois où j'ai honte. C'est même pas les erreurs que j'ai doublées. Si parfois mon monde s'effondre, je suis juste fatiguée.
À l'instant sur Move.
La pluie et le beau temps.
Le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Il est 19h50, on est en direct de La pluie et le beau temps, l'hebdo du mardi dédié à l'actu culture et société, mais pas que, on est aussi là pour débattre.
La pluie et le beau temps.
Alors tout à l'heure, Florence, tu parlais d'un truc hyper important d'une amie à toi qui tient une asso.
Une asso sur la santé mentale des artistes qui s'appelle Cura. Et
c'est hyper intéressant parce que hier, comme par hasard sur Instagram, je suis tombée sur un post et je voulais en parler avec vous et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc le post s'appelle « La santé mentale des artistes, on n'en parle pas assez ». On voit nos visages à l'écran, on entend nos voix sur scène ou à la radio, mais on ignore souvent ce qu'on traverse en coulisses. On remarque les rôles qu'on décroche, beaucoup moins les refus, les auditions sans réponse et les doutes qu'on porte en silence. Et c'est vrai en fait, parce que dans ce milieu, bah c'est pas facile et les gens pensent que parce qu'on est médiatisé ou parce qu'on fait un truc cool, bah ça a été facile.
Après, il y a aussi un truc qui est compliqué parce que comme c'est quelque chose dont beaucoup de gens rêvent et que toi t'y as accédé, à quel point t'as le droit de te plaindre comme ça et de dire aïe, je suis malade à cause du pollen. Et en fait, les gens qui t'écoutent, ils ont des préoccupations et machin. Et du coup, c'est... c'est aussi compliqué.
Mais j'avais vu un truc intéressant, c'était une interview d'un gars qui disait les gens voient là où t'es aujourd'hui, mais ils savent pas par quoi t'es passé. Et c'est vrai que là, ce poste dit derrière chaque réussite, il y a des dizaines de noms, des absences de réponses, même après s'être donné à fond. Et souvent, cette impression de ne jamais être vraiment à la hauteur, même après des années d'expérience. Parfois, on traverse des déserts, des mois, des semaines sans appel, sans opportunité. Et dans ces silences, c'est notre confiance qui s'effrite.
Mais après, moi, je trouve aussi que c'est dur. Enfin, le mot réussite, dans ce cas-là, quand t'es artiste, la réussite, est-ce que c'est de faire un Bercy? Ou est-ce que, en fait, ça veut rien dire pour moi?
Ouais, en fait, c'est tellement propre à chacun aussi, déjà de une. Et même, ça peut être tu peux être déçu. Genre, si t'as rêvé d'un truc toute ta vie et te rendre compte que ça, en fait, maintenant, c'est ton métier, et juste te dire, j'aime pas. Ouais. Et avoir ce truc de, il y a tellement de gens qui en rêvent, donc je suis obligée d'aller jusqu'au bout et tout. C'est aussi une pression.
Carrément. Je finis, faire ses heures, rester visible, justifier qu'on mérite sa place. Le régime de l'intermittence est une vraie chance, mais entre l'instabilité financière et la pression constante, l'équilibre est souvent fragile. Mais c'est vrai. Mais c'est un truc de fou, les gens, ils sont...
C'est un choix, bébé.
C'est vraiment ça.
La vie qu'on a décidé de mener, ça.
Ouais.
Mais c'est un truc de ouf, parce que toi, t'es là, tu galères, tu...
Faut aller chez le psy, les chats.
Moi, je pense vraiment que quand tu choisis aussi d'avoir ce type de métier, ce mode de vie, etc., faut aussi que tu acceptes que ta vie, ça sera les montagnes russes et que tu vas passer de moments où
tu vas te sentir
la personne la plus chanceuse, sollicitée du monde, la plus chanceuse, etc., mais qu'il y a des moments où tu vas te sentir comme une merde parce que ça va pas aller dans ton sens,
ton téléphone ne va pas sonner,
voilà, parce que les contrats se terminent, tel truc machin. C'est aussi un statut qui est compliqué parce que il y a plein de gens qui veulent qu'ils disparaissent et que tout tend un peu à cette disparition.
Ouais bien sûr. Donc, tu sais que c'est éphémère, tu sais que t'es là un moment, mais tu sais pas si l'année prochaine t'es là, tu sais jamais quand ça s'arrête, etc.
Et après, c'est comme on a dit, quand tu choisis de pas être dans
un truc conventionnel.
Oui, dans un truc de bureau ou un CDI, machin.
Et après, il y a aussi un enjeu de pourquoi tu mets autant de force dans ta visibilité plutôt que dans ton art. Tu vois, il y a un truc de, à la base, t'es artiste et t'as envie de faire
Est-ce que c'est pas parce que, justement, par rapport à ce qu'on se disait aujourd'hui, que malheureusement, si t'as pas de visibilité, tu peux pas vivre de cet art-là?
Ouais, ça questionne le sens. Oui, c'est aussi un cercle vicieux et ça peut aussi être un parti pris de se dire... moi, en fait, je le fais pas pour les vues. Et
à la base, c'est une zone d'amusement.
Et c'est quelque chose qui s'explique aussi. Tu vois, s'il y a des gens qui tu peux te dire, les gens qui viendront à moi, c'est des gens qu'auront cherché et je serai là, tu vois.
Et c'est pour ça, il y a plein de gens qui s'autorisent pas que leur revenu, ce soit leur discipline artistique, parce que du coup, ça les rend, ça fait qu'ils sont vraiment la dalle.
Ouais.
Et du coup, qu'ils acceptent tout, un truc pas sain. Et je pense que c'est aussi une bonne mentalité de se dire, j'ai autre chose et je mets pas toute ma vie dans cette dalle que j'ai de vouloir quelque chose de très artistique.
Mais est-ce que tu comprends?
Que ça soit ça qui me donne à manger, quoi.
Est-ce que vous comprenez, du coup, des gens qui refusent de faire autre chose que ça parce que du coup ça ne les anime pas.
Mais moi je comprends aussi.
Parce que t'es pas heureux quand tu fais pas ce que t'aimes. Pour le coup.
Je peux tout comprendre.
Mais t'es pas heureux quand tu m'en dis, je pense.
Et t'es pas heureux
quand t'es obligé de dénaturer ton art pour des conventions un peu nazes de
trois cachets.
Il faut avoir tant de vues, il faut avoir tant de trucs, tu vois.
Non, c'est difficile, Mais c'est vrai que ce poste, il est hyper. Enfin, pour le coup, quand je suis tombée dessus hier, j'étais là, genre, oh
ouais.
Oh là 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 là. Je comprends beaucoup
avec
de choses.
Avec tes larmes dans ton lit comme ça.
Parce que tu sais pas ce que tu vas devenir. Et tous les jours, tu charbonnes, tu dis, les gens, ils sont là, ouais, est-ce que je peux passer sur mon ma belle. Mon beau. Déjà, nous, on passe.
Déjà, on passe pour combien de temps? Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire.
Non, mais c'est pas facile. Et c'est vrai que les gens qui sont pas dans ce corps de métier-là ne comprennent pas forcément. C'est important d'en parler aussi. Nous souffrâmes. Un petit mot pour la fin.
Ouais, et un peu d'empathie aussi, les confrères qui, genre, veulent absolument écrire des papiers sur des choses qui se passent et qui laissent pas digérer les gens.
Parce qu'ils savent pas ce qui se passe en interne et c'est gentil.
Non, mais c'est bien de vouloir en parler ou tous ces trucs-là, mais qui sont en mode. Ouais, et du coup, ou même les gens juste qui te stressent et vous allez faire quoi et
ça c'est le problème de l'actu chaude, genre vraiment c'est, il se passe un truc hyper fort dehors et tu vas voir les gens en mode coucou tu es à terre, est-ce qu'on peut
non mais c'est compliqué, c'est un vrai sujet pour le coup. Et c'est vrai qu'entre artistes dans les gens du milieu artistique qui est assez gros, beaucoup de gens se comprennent. Les filles, je suis désolée, je vais pas pouvoir écouter votre unpopular opinion.
On les fera plus tard.
On les fera plus tard. On me dit en régie qu'il faut balancer la musique parce que ça reste quand même une musicale. Il est 19h56, on est toujours en direct de l'appui et le beau temps. On revient dans un instant, vous inquiétez pas, restez branchés. Pour la suite du son, on écoute Wiz Khalifa, 5 Star sur Move.
Yeah. It's your boy, Mr. Easy Rider, right here on WEED. And I'm letting y'all know, it's time to put your windows down and pass that weed around. Yeah, go ahead and place your order at Nobu, cause this is Cushion Orange Juice, times two.
We can do many things, we can pack it up and fly on any plane. We can take it less than European train. Show you how my lifestyle these days. We can have a little baby. Take you to the crib and do some free things. No vitamins, I give you all D. You fuck me like a 5-star freak, baby.
Couple carrots in every ring. Private planes, fill the buckets with champagne. She ain't thinking about a wedding date. Updated story, letting everyone know she landed safe. She like to smoke weed every day. Rolling up a stogie while she let the oldies play. Hair long, you don't know her race. She cool with y'all, but she wanna be with Taylor Gang. Taylor Gang.
We can do many things. We can pack it up and fly on any plane. We can take it less than European train. Show you how my lifestyle these days. We can have a little baby. Take you to the crib and do some free things. No vitamins, I give you all D. You fuck me like a 5-star freak, baby. And we ain't spend time in a minute. Knowing I'm the one on your mind, intuition. Told you was gonna be mine, and I meant it. Knowing you gon' pull up and vibe with me anyway. We can do a million things. We can pack it up and fly on any plane. We can take it less than European train. Show you how my lifestyle these days. We can have a little baby. Take you to the crib and do some free things. No vitamins, I give you all D. You fuck me like a 5-star freak, baby.
Now she starting to dress like me, wearing Rick instead of Nike. She working out, we doing yoga and hiking. Grown as hell, so we spend our time wisely. But still down for a rock star night, where I let you pick a bad bitch to slide with. We could smoke weed all night, go back to the yacht and play my shit. It's gang, you know what the vibes is.
We can do many things. We can pack it up and fly on any plane. We can take it less than European train. Show you how my lifestyle these days. We can have a little baby. Take you to the crib and do some free things. No vitamins, I give you all D. You fuck me like a 5-star freak, baby.
Move Radio.
Move. Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS.